fois par mois, dans Grain de Beauté, nous parlons d'hypnothérapie. Et c'est avec Cynthia Nabé que nous en parlons aujourd'hui. Bonjour Cynthia.
Bonjour Léa.
Vous êtes hypnothérapeute et nous prenons chaque mois un thème bien précis. Ce matin, nous allons parler de la confiance en soi, de l'estime de soi, de l'assurance. Tous ces termes qui sont un peu différents. Mm-hmm. On va y voir un peu plus clair avec vous tout à l'heure. Mais on va rappeler peut-être avant de commencer ce que c'est que l'hypnothérapie. On est nombreux à ne pas vraiment savoir ce que c'est et de ne pas savoir également ce que l'on peut en attendre.
Alors, je vais répondre en deux parties. Qu'est-ce que c'est que l'hypnothérapie ? L'hypnothérapie, c'est le soin par l'hypnose. On peut soigner énormément de choses avec l'hypnose, autant des affections d'ordre physique que des affections d'ordre psychique. D'accord. Les affections d'ordre physique, soit vous allez voir un hypnothérapeute qui est médecin, et dans ces cas-là, il va faire son soin, il va inclure l'hypnose dans son soin médical. Mmh. Soit alors vous allez voir un hypnothérapeute qui n'est pas médecin, et dans ces cas-là, eh bien, l'hypnose va venir en complément du soin médical.
Mais comment est-ce que ça fonctionne ? L'hypnose, pourquoi est-ce que ça soigne ?
Pourquoi est-ce que ça soigne ?
Question de base.
Pourquoi est-ce que ça soigne ? Parce qu'en fait, l'être humain n'a pas accès consciemment à toutes ses ressources. Et en fait, avec l'hypnose, grâce à l'hypnose, on va accéder à toutes ces ressources inconscientes et même à des ressources supraconscientes, j'ai envie de dire.
Ouais. C'est-à-dire qu'on est son propre médecin.
Exactement.
On a les capacités en nous de nous soigner.
Exactement. Ben, on revient au principe d'Hippocrate, hein. Sois toi-même ton propre médecin. Hein. Il faut commencer par avoir une bonne hygiène de vie. Et de la même manière que nos amis chinois font du tai chi, on peut très bien faire de l'hypnose, même de l'auto-hypnose, pourquoi pas. Il y a des techniques d'hypnose et d'auto-hypnose qui sont empruntées, par exemple, aux Amérindiens.
En fait, dans l'hypnothérapie, on prend l'individu dans sa globalité.
Exactement, on dit qu'en principe, l'hypnose est une thérapie holistique.
Voilà, c'est le terme qui désigne le fait qu'on va prendre des critères et des facteurs très différents, peut-être pas exhaustifs, on essaye.
Exhaustif, après, je ne sais pas si on peut être réellement exhaustif, évidemment, mais en tout cas, en ce qui me concerne dans ma pratique, j'essaie d'être le plus exhaustif possible et de voir la personne dans sa globalité. Après, tout le monde ne pratique pas de cette façon-là. Moi, j'aime bien pratiquer cette façon-là et pas voir la personne juste par un petit bout de la lorgnette.
Oui, c'est ça. Alors, les champs d'application, ça, c'est quelque chose
d'assez... Les champs d'application, donc j'ai parlé de l'aspect médical, mais on peut avoir l'aspect, et surtout d'ailleurs, en général, en hypnothérapie de ville, on va avoir surtout l'aspect psychique. Donc, on peut agir sur les traumatismes, on peut agir, je pensais notamment aux attentats qu'on a eus récemment, malheureusement. On peut avoir la confiance en soi, l'estime de soi, ce dont on va parler tout à l'heure. On peut travailler sur, par exemple, tout ce qui est relationnel et communication. Il m'arrive régulièrement, par exemple, d'avoir des personnes qui viennent me voir parce que je tombe toujours sur le mauvais partenaire dans la vie, j'en ai assez, on va pouvoir travailler là-dessus. En fait, l'hypnose va servir de médiateur pour de la psychothérapie plus accéléré, puisque le temps n'existe pas dans l'inconscient. Donc, on va travailler, ni dans la conscience d'ailleurs. Donc, on va travailler en beaucoup plus condensé. J'ai aussi des médecins qui m'envoient des patientes à eux qui sont en stérilité dite psychologique. C'est-à-dire qu'on a écarté tous les problèmes médicaux possibles et la personne, techniquement, tout va bien, mais la dame, elle n'arrive pas à faire des bébés. Et là, on se dit, ça doit être un blocage psychologique. Et l'hypnose, on obtient de très bons résultats avec l'hypnose.
Ouais. C'est-à-dire qu'il faut avoir une certaine connaissance pour venir vous voir, parce que parfois, on a des petites problématiques dans la vie et on ne sait même pas que l'hypnose peut-être venir en aide.
En réalité, l'hypnose peut venir en aide pour tout type de problématiques. Il y en a qui viennent pour arrêter de fumer, d'autres pour perdre du poids aussi. Enfin, ça peut être des choses aussi basiques que ça.
Concrète.
L'hypnose va agir comme un accélérateur. Donc, on peut s'en sortir tout seul. On a les ressources ressources pour s'en sortir tout seul. Ouais, ouais. Après, combien de temps je vais mettre pour m'en sortir ? Mm-hmm. Voilà, c'est la question. L'hypnose va agir comme un accélérateur. Après, il y a aussi le côté thérapeutique, le fait d'aller consulter un professionnel de l'aide va permettre d'abord d'échanger sur ma problématique. Ça va me permettre aussi peut-être de relativiser ma problématique. Finalement, mon problème n'est pas si grave que ça. Ouais. De prendre du recul. Et d'avoir un éclairage extérieur sur ma problématique. Mmh. Et un éclairage sans complaisance. Parce qu'on peut se dire, ah bah oui, mais moi aussi, j'ai un meilleur ami ou une meilleure amie, je vais aller me confier. Oui, mais le meilleur ami, la meilleure amie, ils sont là, ils peuvent parfois être complaisants, nous brosser dans le sens du poil. Le thérapeute, il n'est pas là pour ça. Mmh. Donc, il va vous dire les choses telles qu'elles sont. Il va vous confronter, c'est le terme technique d'usage, il va vous confronter à vous-même et vous dire... Ouais, mais là, vous exagérez.
Mmh. Ou le meilleur ami peut transférer ses propres problèmes aussi sur la personne en face. Donc, ce n'est pas toujours la meilleure solution.
Très sincèrement, le thérapeute est un être humain aussi. Et oui. Il lui arrive aussi parfois de transférer, d'être dans la projection. Oui. Alors, on évite au maximum. Mais il ne faut pas mettre le thérapeute sur un piédestal. Hein.
Il est quand même assez objectif.
Il est formé. En principe, il est formé et il est exercé à avoir une certaine objectivité et à avoir un certain recul, à éviter absolument le transfert et la projection.
Oui. Alors, maintenant, ça va se passer comment au niveau des séances ? Je sais qu'il y a plusieurs types d'hypnothérapeutes. Comment vous pratiquez et puis comment on peut pratiquer aussi en général ?
Il n'y a pas de règle.
C'est une question de personnalité.
Il n'y a pas de règle. Alors, ce n'est pas une question de personnalité, c'est une question surtout de l'histoire de la personne. C'est-à-dire qu'il y a des personnes que j'ai vues une fois, et en une fois, le problème était résolu, parce qu'elle n'avait besoin que de ça, que du petit déclic, et après, la personne, elle est repartie. Je pense notamment parfois à certains arrêts du tabac. C'est en général la question qu'on me pose. Et pour arrêter de fumer, il faut combien de séances ? Eh bien, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de vous. Il y a des personnes qui ont arrêté de fumer en une séance, puis il y a des personnes, il leur a fallu 4 ou 5 séances pour arrêter de fumer, parce que la cigarette, comme beaucoup de compulsions, c'est une béquille. Et voilà. Alors, je parle de la cigarette, mais je pourrais bien parler d'autre chose. Hein. Alors, une sérilité psychologique, on va passer 4, 5 séances, parce que si la personne, elle est à ce point-là dans sa tête, elle a à ce point-là des blocages dans sa tête qui font qu'elle n'arrive pas à donner la vie, c'est qu'il doit y avoir quelque chose de sérieux à lever et à résoudre.
Ouais, Cynthia, je suis assez étonnée des chiffres que vous donnez quand vous dites 4, 5 séances, ça me paraît quand même très peu. Quand on pense à la psychothérapie, ça peut durer 6 mois, 1 an, des années, toute une vie.
Je tords le cou encore à un mot. Allez. Alors, le mot psychothérapie... À la base, c'est un terme qui a été inventé, un néologisme qui a été inventé par Hippolyte Bernheim en 1891. Mmh. Que voulait dire psychothérapie ? Ça voulait dire soin thérapeutique par l'hypnose.
Comme nous revoilà.
Nous revoilà.
Et pourtant.
Alors, on va parler plus de psychanalyse sur des années. C'est plutôt la psychanalyse. Parce qu'en général, bon. Mais j'aime bien rendre à César ce qui appartient à César. La psychanalyse, oui, c'est quelque chose de très long parce que la psychanalyse fonctionne sur le principe d'analyse et d'association d'idées. Donc après, ça dépend des capacités de chacun à analyser et à faire des associations d'idées. Mmh. Alors qu'en hypnose, on ne fonctionne pas du tout comme ça. Et en hypnose, c'est ce que j'ai glissé tout à l'heure en démarrant. En fait, que ce soit dans l'inconscient ou que ce soit dans la conscience, puisqu'on peut travailler depuis l'inconscient ou depuis la conscience, avec un grand C, le temps n'existe pas. Le temps n'existe vraiment pas. C'est-à-dire que l'inconscient, à maturité, il a 6 ans. D'accord ? Un enfant de 6 ans n'a absolument aucune notion du temps. Si on ne lui enseigne pas le temps, il n'a pas de notion du temps. Tout est actuel. Donc pour l'inconscient, tout est actuel. Ça fonctionne sur le même mode. Du coup, on peut aller très très vite. L'inconscient traite par près de 400 milliards de bits à la seconde. Ça veut dire...
Beaucoup.
Énormément. Alors que le conscient, C'est-à-dire, moi, consciemment, je ne gère que 2000 informations à la minute.
Oui. Donc,
À la seconde.
L'inconscient a une capacité de réception d'informations.
De traitement d'informations qui est très vaste.
Hein,
à ce jour, le meilleur ordinateur reste le cerveau humain. Pour faire un parallèle avec l'ordinateur, parce que j'ai parlé de bits tout à l'heure, le meilleur ordinateur, l'ordinateur le plus performant reste le cerveau humain.
Et pourtant, on connaît que 1, 2, 3%, je crois, de ses capacités.
Alors, 10% consciemment.
Consciemment.
Hein. Consciemment. Les 90% restants, on les utilise, Dieu merci, on les utilise, mais de manière automatique. Je ne vais même pas parler de consciemment, je vais parler d'automatique, d'automatisme.
Alors, on va parler dans cette émission de ce que nous avons présenté tout à l'heure, c'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi, l'assurance. Et juste après la pause, on donnera les définitions de ces termes, comme vous aimez bien remettre les choses à leur place. C'est ce que nous allons faire dans
avec
un instant.
Plaisir.
Je rappelle que nous sommes en compagnie de Cynthia Nabé. Vous pouvez avoir toutes les informations sur votre site. Alors, c'est cynthianabé.com et on peut également vous contacter au 06 98 32 46 68 06 98 32 46 68. Oui, ben voilà, j'écris très très mal et voilà pourquoi.
Avec plaisir.
À tout de suite. On se retrouve dans la seconde partie de Grain de Beauté. Ce matin, nous parlons d'hypnothérapie et le thème de ce matin, c'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi, l'assurance, en compagnie de Cynthia Nabé qui est hypnothérapeute. Et vous pouvez d'ailleurs trouver toutes les informations sur Cynthia sur le site cynthianabé.com. Cynthia, on parle beaucoup d'assurance, on parle beaucoup de confiance. On a tendance à confondre ces termes. Comment est-ce qu'on peut éclaircir un peu le schéma ?
Alors, l'assurance et la confiance en soi, ce sont deux choses qui sont différentes. L'assurance, c'est ce que vous montrez aux autres. Mmh. Voilà. La confiance, c'est la capacité que je me reconnais, justement, dans mes propres jugements, dans mes capacités à rebondir.
Et ça n'est pas, comment dirais-je, lié les deux lorsqu'on montre de l'assurance. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'automatiquement, on a de la confiance ?
Alors, c'est toujours... c'est pareil que l'alcool et la cigarette, c'est avec modération.
Ah bon ?
C'est-à-dire que quand l'assurance... va avec la confiance, la personne, on le voit, on le sent, elle est linéaire, elle est alignée avec elle-même, hein. La personne montre une certaine capacité à parler, intervenir et aussi se mettre en retrait. J'ai tendance à me méfier, entre guillemets, des personnes qui montrent beaucoup, beaucoup d'assurance. En général, ça trahit d'ailleurs un manque de confiance. C'est-à-dire qu'ils en montrent un peu comme la tartine de confiture. Moins on en a, plus on l'étale. donc, j'ai tendance à me méfier des personnes qui ont un surcroît d'assurance. C'est-à-dire la façade, la vitrine, elle est bien brillante, un peu trop brillante. Et quand on gratte un petit peu, en fait, il se trouve que la personne, elle manque vraiment de confiance en elle.
Alors, quels sont les critères ou les signes qui peuvent montrer que, justement, on est soi-même, quand on se regarde dans le miroir, on est soi-même en manque de confiance en soi. Et qu'est-ce qui aussi montre de l'extérieur ?
Alors, avant de parler du manque de confiance en soi, j'aimerais juste dire quelques mots sur comment ça se construit, la confiance en soi. La confiance en soi, il y a deux types de confiance en soi. Il y a la confiance en soi primaire et la confiance en soi secondaire. La confiance en soi primaire, elle se construit dans la petite enfance. C'est à travers les yeux de papa et maman, alors apprendre au sens très large, à travers les yeux de mes éducateurs, d'accord ? En psychologie, on parle de père et de mère, mais pas au sens de mes géniteurs. C'est-à-dire, ça peut être un grand-père, une grand-mère, parce que papa
qui
et
joue
maman
le rôle.
Qui jouent le rôle d'eux, parce que papa et maman, malheureusement, ne sont plus là. Et en fait, on va. L'enfant. À travers la réponse qu'il va obtenir de ses petites expériences, eh bien, il va construire la confiance en soi. Je donne un exemple, j'aime bien donner cet exemple-là. Quand il y a un petit, deux ans et demi, comme ça, qui qui veut sauter une petite marche. Alors la marche, elle fait à peu près même pas 10 cm, mais pour lui, ça fait juste la moitié de son tibia. Et il prend son élan et il saute avec toute son énergie. Et là, c'est très, très important. Il est fondamental que papa ou maman dit « Oh là là là, mais qu'est-ce que t'es grand !» Pourquoi c'est très important? Alors, le nombre de « oh là 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 » est très important aussi.
Chez les Juifs, je crois.
Chez les Juifs, chez les Mères Juives, ouais. Pourquoi c'est très important, en fait, de valider l'exploit de l'enfant? Parce que c'est ça. Il va voir dans les yeux de papa et maman, dans le regard de papa et maman, que ce qu'il vient de faire est validé, que ce qu'il vient de faire est bien et juste. Et donc, il va pouvoir expérimenter quelque chose de plus compliqué. Et au fur et à mesure, comme ça, il
d'étape
va expérimenter
d'étape en étape,
et ben il va gravir les échelons et affronter les expériences
ça,
de la vie.
Ça, c'est la
confiance
primaire.
En soi primaire. Quand on a une bonne confiance en soi primaire, en fait, après, il y a la confiance en soi secondaire qui va se construire, en fait, à travers les expériences qu'on va vivre. Et là, le rôle des parents est encore assez important. Si j'ai eu une maman qui m'a encouragée à vivre, ou un papa qui m'a encouragée à vivre des expériences en disant, bon, ben, vas-y, et moi en tant que... Et eux en tant que maman, je suis maman de 3 enfants, donc moi en tant que maman, ça m'arrive aussi, je dis, oh là là, bon, est-ce qu'il va y arriver, est-ce qu'il va pas y arriver? Mais ce sont mes peurs à moi, ce ne sont pas les siennes. Donc l'enfant, il a cette espèce d'inconscience, et heureusement, il a cette espèce d'inconscience du danger. Alors évidemment, si mon enfant, il y a un vrai danger physique, j'interviens évidemment. Mais s'il n'y a pas de danger physique, et c'est juste que j'ai peur pour mon enfant, en bonne mère juive, et bien à ce moment-là, c'est à moi en tant que mère, en tant que père, c'est à moi en tant que parent à me contenir, en dire ben, « vas-y, je suis un quart de pas derrière toi, et si tu tombes, je serai toujours là pour te rattraper. » C'est ça mon rôle de parent. En faisant ça, l'enfant va faire son expérience, il va réussir ou il va échouer, et c'est très important d'échouer parce que c'est de ces échecs qu'on apprend et pas de ses réussites. La réussite, c'est bien, c'est sympa, ça renforce, ça fait plaisir à l'ego, mais les échecs, ça permet de surmonter et d'aller de l'avant, d'analyser, de dire qu'est-ce qui n'a pas fonctionné.
Tout simplement d'apprendre.
Mais
là, on est toujours dans la primaire, là.
Non, on est dans la secondaire.
On est déjà dans la secondaire.
C'est-à-dire que je vais faire des expériences, réussir ou me tromper, je corrige et j'avance.
Alors, quelqu'un qui n'a pas de confiance en soi, c'est que au niveau de la confiance primaire et secondaire, il y a eu un déséquilibre. Ça, comment est-ce que ça peut se soigner?
En général, c'est plutôt, heureusement, c'est plutôt au niveau de la confiance en soi secondaire. Très souvent, quand on dit « j'ai pas confiance en moi », ma première question, quand les gens disent « j'ai pas confiance en moi », ok, d'accord, très bien, vous n'avez pas confiance. D'abord, qu'est-ce que vous appelez la confiance? Parce qu'on n'est pas toujours d'accord sur la définition. Et deuxièmement, parce que c'est une brouette, le mot « confiance en soi », ça ne tient pas dans une brouette, on y met tout et n'importe quoi. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que la confiance? Et en plus, très bien. Vous dites que vous n'avez pas confiance en vous. Par exemple, j'ai pas confiance en moi, je dois faire une intervention au travail devant 50 personnes. C'est la première fois. C'est la première fois. C'est normal que vous n'ayez pas confiance. Vous ne connaissez pas, c'est l'inconnu total. Donc, c'est normal que vous ayez peur. C'est pas un manque de confiance, vous avez peur parce que c'est l'inconnu. Donc, vous préparez, très bien, au maximum, je peux vous accompagner à vous préparez à cet événement-là, c'est pas que vous n'avez pas confiance. La confiance, ça vient avec l'expérience.
C'est le trac, c'est la peur,
c'est
l'appréhension.
Et ça, c'est normal.
Donc, pour au niveau de l'hypnothérapie...
Michel Bouquet disait que le trac, ça vient avec le talent.
Ah oui, c'est ce qu'il disait, oui. Bon. Et en tout cas, au niveau de l'hypnothérapie, pour aider, c'est comme ça qu'on s'y prend. On discute avec la personne, on essaie de définir les choses.
Déjà, on essaie de définir les choses parce qu'il n'est de bon vent que pour celui qui sait où il va. Donc, on va définir les choses pour définir l'objectif.
C'est ça.
Voilà. Et, Et ensuite, on va travailler sur les éléments qui ont manqué à la personne dans son passé et qui l'ont amené à ressentir ce malaise.
Alors, le lien avec l'estime de soi, est-ce que l'estime de soi et la confiance en soi, c'est très lié?
Alors, la confiance en soi, c'est la confiance que j'ai dans mes propres jugements, dans mes propres capacités à avancer. L'estime de soi, c'est la manière dont je m'évalue. C'est pas la même chose. Oui. La nuance est ténue, on va dire. Elle est très mince. Mais ce n'est toujours pas, je vais y arriver.
Ayez confiance.
C'est pas complètement la même chose. L'estime de soi, il va y avoir plutôt la notion, effectivement, d'évaluation, de jugement. Et effectivement, si on m'a critiqué, jugé, mal jugé ou critiqué de manière injuste, effectivement, je vais tendance à me dévaloriser. Et quand on dit je me dévalorise, là, on parle d'estime de soi et non pas de confiance en soi.
Oui, parce qu'il y a une appréciation d'un certain niveau.
Alors, l'estime de soi, c'est par rapport aux autres. La confiance en soi, c'est par rapport à moi-même.
Et l'assurance s'approche davantage de l'estime de soi.
De l'estime de soi, effectivement. C'est-à-dire qu'en général, les personnes qui ont une mauvaise estime d'elles-mêmes, ce sont des personnes qui vont avoir peu d'assurance ou trop d'assurance pour compenser cette espèce de mauvaise évaluation.
Alors, en hypnothérapie, on va pouvoir imaginer combien de types de séances pour essayer de résoudre, de rééquilibrer finalement ces problématiques.
Alors, on peut faire plein de choses. C'est-à-dire que la personne, par exemple, qui a une bonne estime, une bonne confiance en soi primaire, mais en termes de confiance en soi secondaire, c'est-à-dire qu'elle a fait peu d'expérience, elle n'a pas l'expérience, en hypnose, on a des techniques pour faire sous-hypnose répétée à la personne, comme un répétiteur, on va faire... c'est du coaching, en fait. Donc, on va, grâce à l'hypnose, accélérer le processus de répétition et d'entraînement. D'accord ? Ça, c'est une chose qu'on peut faire. Quand il y a un problème d'estime de soi, donc la personne se dévalorise, a une mauvaise évaluation, finalement, de sa valeur personnelle, à ce moment-là, ça relève de choses un peu plus profondes. Et dans ces cas-là, ça prend pas forcément plus de temps que la confiance en soi, que le travail sur la confiance en soi, mais c'est juste différent. Là, on va rentrer dans ce dont j'avais parlé la dernière fois, à savoir le travail qui va allier la psychologie jungienne et l'hypnose, et on va rentrer plus dans des techniques d'hypnose humaniste que des techniques d'hypnose ericksonienne comme on pourrait les pratiquer pour la confiance en soi.
Donc là, il nous faut vraiment un pro pour essayer de résoudre.
Alors, on peut aussi travailler soi-même en auto-hypnose. Alors, je sais que ça surprend souvent les gens. Ah bon, on peut s'auto-hypnotiser? On peut.
On parlera de l'auto-hypnose dans le prochain numéro.
Avec plaisir.
Merci beaucoup, Cynthia, d'avoir été avec nous. Je rappelle qu'on peut avoir toutes les informations sur vous, cynthianabé.com, ou bien vous téléphonez au 06 98 32 46 68.
Merci, Léa.
À bientôt.
À bientôt, Léa. Au revoir.